11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, je reçois Denis Martouzet. Bonjour.
Bonjour.
Alors Denis Martouzet, vous êtes professeur des universités, directeur de l'école doctorale Sciences de la Société, Territoire, Économie, Droit, rédacteur en chef de la revue Nouvelle Perspective en Sciences Sociales et vous appartenez à l'unité mixte de recherche CNRS CITER. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai le plaisir de vous recevoir dans la Méridienne puisque vous venez dans le cadre du partenariat avec la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. Alors, chers auditeurs, si toutes les fonctions occupées par Denis Martouzet ne vous sont pas limpides, eh bien je pense, Denis Martouzet, si vous en êtes d'accord, peut-être que vous voulez bien expliquer, peut-être pour commencer, alors ce que signifie être professeur en urbanisme. Qu'est-ce que c'est? Comment on devient professeur en urbanisme?
Alors professeur en urbanisme, tout d'abord professeur, c'est une des catégories d'enseignants-chercheurs, et comme le titre ne l'indique pas, enseignant-chercheur, il y a trois moitiés. Il y a enseignant d'une part, donc j'ai un certain nombre d'heures de cours ou de TD à faire, bien sûr, auprès des étudiants entre bac plus 1 et bac plus 5, parfois aussi au niveau du doctorat. Deuxième moitié, chercheur, c'est pour ça que je suis membre de l'UMR, Unité Mixte de Recherche CITER, qui regroupe des urbanistes, des géographes, des sociologues, des anthropologues notamment, j'en oublie certainement. Et puis la troisième moitié, eh bien, ce sont les activités de valorisation de la recherche, les activités administratives ou d'organisation de la recherche et ou de l'enseignement. Et c'est à ce titre-là que je suis effectivement, depuis 3 ans maintenant, directeur d'une école doctorale, donc qui gère en fait le processus qui amène des doctorants à aboutir à la soutenance de thèse, un moment très important pour eux, pour moi aussi d'ailleurs, à partir du moment où ils s'inscrivent, et donc pendant 3 ans normalement, parfois 4, 5, 6 ans. Ça suppose un certain nombre d'activités, publication d'articles, des choses comme ça, de la part des doctorants. Et donc j'essaye d'organiser tout cela en proposant aussi des formations.
Alors ça veut dire aussi par exemple que ces doctorants, vous les suivez pendant toute la durée de leur thèse, c'est-à-dire que vous êtes un peu la personne référente, c'est vous qu'ils appellent au secours s'ils sont perdus dans leur recherche, comment ça marche?
Alors c'est pas exactement ça, la personne référente c'est le directeur ou la directrice de thèse. Principalement, dans 90% des cas, c'est lui qui fait la totalité ou la quasi-totalité du travail de direction de thèse. Ensuite, effectivement, s'il y a des soucis, à ce moment-là, le doctorant peut s'adresser à l'école doctorale pour envisager comment remédier à ces problèmes. S'il y a un souci relationnel avec le directeur de thèse, ça peut arriver, c'est peu fréquent, mais ça peut arriver. Ou des soucis liés au terrain, par exemple, pour les géographes ou les urbanistes. Actuellement, c'est la pleine, c'est le principal problème, dans la mesure où il y a beaucoup de doctorants qui ne peuvent pas aller sur le terrain, à l'étranger, parfois même en France, évidemment liés à la situation Covid.
Alors ça veut dire que du fait de cette situation, il y a eu des travaux de thèse qui ont été suspendus, même des travaux de chercheurs qui ont été suspendus ces derniers mois?
Alors suspendu, c'est pas exactement ça, parce qu'un chercheur est toujours sur plusieurs tâches en même temps. Bien sûr, s'il ne peut pas faire son terrain, aller prospecter, aller observer, faire des interviews, etc., il a quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire de regarder ce qui, dans la littérature scientifique, traite de près ou de loin de son sujet de recherche, et donc asseoir un petit peu mieux les bases théoriques qui lui permet ensuite ou en parallèle d'améliorer sa pratique de terrain. Et puis si véritablement il n'y a pas la possibilité ni de faire l'état de l'art, parce que les bibliothèques ont été fermées aussi, même si on trouve beaucoup de choses à distance, il y a aussi la possibilité de rédiger un article, de suivre une formation à distance, un MOOC, etc. Toutes choses qui font partie du travail de thèse pour les doctorants.
Pour ces chercheurs ou ces doctorants qui ont vu, en tout cas, peut-être leur projet de terrain décalé du fait de la Covid, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on imagine bien que des fois, il y a des questions de subventions, d'argent. Donc comment on fait pour garder plus longtemps, 6 mois, peut-être un an, pour décaler d'un an un projet de recherche?
Alors, sur le plan technique, pratique et administratif, c'est pas tellement compliqué. Si le doctorant fait sa thèse en 4 ans et demi au lieu des 4 ans qu'il avait plus ou moins prévu au départ, Il a malheureusement à s'inscrire une année supplémentaire. Bon, il est vrai que ça lui coûte environ 400 euros, un tout petit peu moins de 400 euros, ce n'est pas négligeable. Et puis là, l'université de Tours a mis en place, en fait, pour ceux qui devaient soutenir d'ici Noël 2020, la possibilité de décaler jusqu'à juin 2020 cette soutenance sans avoir des frais d'inscription supplémentaires pour l'année nécessitée par cette crise sanitaire. Alors, là où c'est plus compliqué, c'est lorsque les doctorants ont un contrat doctoral. Un contrat doctoral, c'est un contrat de travail de 3 ans. Et il y a des doctorants qui se sont ainsi retrouvés privés de pouvoir travailler, tout en étant payés, bien sûr, c'est un contrat de travail, et qui ont fait des demandes de prolongation de ces contrats de travail. Alors on a examiné au cas par cas, il y a eu une commission qui a examiné au cas par cas toutes les demandes des doctorants demandant 1 mois, 3 mois, parfois 6 mois de contrats de travail supplémentaires. Les finances étant ce qu'elles sont, on n'a pas forcément pu répondre à toutes les demandes, ou en tout cas pas autant que chaque doctorant le demandait. Alors ça a été réglementé aussi au niveau du gouvernement, bien évidemment. Nous, on a mis en œuvre ce qu'il nous était possible de faire.
Voilà, et alors peut-être un mot sur CITER, plus précisément, qu'est-ce que c'est?
Alors CITER, Cité Territoire Environnement Société. Alors c'est une UMR, unité mixte de recherche, mixte dans le sens où ça relève à la fois de l'université de Tours et du CNRS. Donc une unité mixte de recherche, c'est un labo de recherche qui a deux tutelles. Voilà, ça pourrait être c'est le CNRS pour nous et l'université de Tours, pardon. Ça pourrait être l'INSERM hein, ou d'autres grands établissements de recherche. Alors, CITER est composé d'environ 80 chercheurs et enseignants-chercheurs, à peu près autant de doctorants et quelques personnels administratifs aussi, ingénieurs et tout ce qui concerne la gestion financière, notamment des missions, des contrats de travail, parce qu'on a aussi des contractuels. Et il y a une évaluation qui est faite toutes les 4 ou 5 ans et qui essaye d'évaluer la renommée internationale de CITER, le nombre de publications dans des revues référencées et reconnues au niveau national ou international, le nombre de contrats de recherche passés avec l'Agence nationale de la recherche ou avec la région Centre-Val de Loire qui propose pas mal de possibilités, ou d'autres, ça peut être le ministère de l'écologie et du développement durable, et d'autres instituts ou institutions, parfois groupes privés, qui financent comme ceci l'essentiel de nos recherches.
Alors, qu'est-ce que ça implique d'avoir plusieurs tutelles? C'est-à-dire est-ce qu'on doit rendre des comptes de façon égale à chacune? Ou est-ce qu'il y a des chercheurs qui seront, par exemple, rémunérés par telle tutelle et pas telle autre?
En gros, les enseignants-chercheurs sont des salariés de l'université de Tours, tandis que les chercheurs, sauf exception, les chercheurs sont des salariés du CNRS. Voilà la différence, sachant que sur un plan pratique, un chercheur CNRS n'est pas tenu de faire de l'enseignement, même s'il est parfois un petit peu incité à le faire pour la transmission des connaissances nouvellement acquises, heureusement. Tandis que bien sûr, l'enseignant-chercheur a un nombre d'heures de cours à faire, statutairement parlant, et parfois des heures complémentaires. Au-delà de ça, il n'y a pas grande différence. Par exemple, pour un jury de soutenance de thèse, un professeur des universités est l'équivalent d'un directeur de recherche CNRS. Un maître de conférence est l'équivalent d'un chargé de recherche CNRS. Et ils ne sont pas le même statut, mais les mêmes prérogatives en matière de recherche, de soutenance de thèse, soutenance de master aussi, des choses comme ça.
Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'on choisit pas vraiment en fait d'être plutôt CNRS ou Université de Tours?
Alors il y a une époque lointaine et bénie où il pouvait y avoir un choix, effectivement. Maintenant, le nombre de postes est tellement restreint, dans disciplines plus que dans d'autres, mais globalement tellement restreint, que lorsqu'on veut un poste de chercheur et qu'on n'a que un poste d'enseignant-chercheur, on est quand même très très content. Et inversement aussi, bien évidemment. Donc les recrutements se comptent chaque année sur les doigts d'une main ou deux mains, selon les disciplines, à l'échelle nationale.
Et alors, qu'en est-il pour votre domaine de compétences?
En matière d'urbanisme, eh bien, il y a quelques postes chaque année, en fait, de recrutement, de maître de conférence, parfois de professeur. Ça correspond en fait à un départ à la retraite, tout simplement. Ou alors une mutation, quelqu'un qui demande de passer de l'université de Tours à l'université, à telle autre université, eh bien, ça laisse une place vacante qu'on se dépêche de remplir, entre guillemets, bien sûr, en faisant passer un concours à des candidats qui sont généralement très très bons. Ça m'est arrivé de gérer un recrutement comme ceci, où pour un poste, il y avait 80 candidats, 80 doctorants. Donc on examine tous les dossiers. Certains dossiers sont d'un peu moins bonne qualité, donc on les met de côté. Certains dossiers sont de bonne qualité, mais la thématique demandée ne correspond pas aux compétences exactes du candidat. On les met de côté, et puis bah, il peut en rester 10, 15, 20, et on fait passer des auditions, et à la fin, il faut en choisir un. C'est généralement un vrai casse-tête, hein, parce qu'en accepter un, c'est faire une croix, c'est être frustré d'une certaine façon, parce qu'on a mis de côté des gens, je le répète, souvent très très bons, et avec qui on aurait bien aimé travailler. Voilà. Et je connais un certain nombre de jeunes chercheurs qui ont réussi, j'ai un exemple en tête là par exemple, qui ont réussi à obtenir un poste de maître de conférence après avoir fait 10 campagnes de recrutement, c'est-à-dire 10 ans. Il y a une campagne par an.
Voilà, donc ça fait les années de thèse plus 10 ans.
Voilà, les années de thèse, 10 ans de généralement dans les labos de travail sur contrat, donc avec la précarité que ça suppose, sur un contrat de recherche Agence Nationale de la Recherche. Ça peut être 12, 15, 18 mois de contrat de chercheur. Et puis, il faut recommencer, trouver quelque chose de nouveau, avec parfois des petites périodes de chômage, etc. Jusqu'à trouver le Graal, le poste d'enseignant-chercheur ou le poste de chercheur CNRS.
Voilà, donc peut-être que malheureusement, il y a des gens qui, en dépit de leurs compétences, se découragent. Parce qu'il y a peut-être malheureusement de la perte en chemin, puisque c'est tellement difficile d'avoir un poste.
Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Et on a très peu de retours sur les personnes qui abandonnent la perte, comme vous dites. Et en général, les quelques exemples que j'ai en tête de gens avec qui j'ai apprécié de travailler, avec qui j'ai gardé contact, même s'ils ne sont plus dans le monde de la recherche, il y a beaucoup de déceptions, parfois beaucoup de frustrations.
Alors vers quoi ils s'orientent alors, ces personnes-là ?
Alors dans mon domaine, en tout cas, dans l'urbanisme, bah, ils ont la possibilité d'être recruté sur des postes d'urbaniste, j'allais dire dans le monde réel, pas dans le monde de la recherche, dans des groupes privés où ils montent leur petite boîte d'études urbaines, ou bien ils peuvent aussi solliciter des postes dans les collectivités locales, que ce soit la région, dans les EPCI, dans les communes, enfin dans les communes, dans les grosses communes notamment. Il y a sans doute d'autres possibilités. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent de faire un parcours complètement différent. Ils ont fait leur thèse, ils ont soutenu leur doctorat, donc. Ils ont essayé et n'ont pas réussi à rentrer dans cette sphère un petit peu bizarre, parfois, et décident de faire carrément autre chose.
Et cette situation, elle est propre à la France ou elle est pareille partout dans le monde ?
Alors partout dans le monde, je ne saurais pas dire. Je ne connais pas forcément la situation de chacun des pays. Je sais qu'il est plus facile d'obtenir un poste d'enseignant-chercheur au Canada, et notamment au Canada francophone, relativement à la situation française. Et la situation française, qui est quand même très, très difficile, que je qualifierais de très négative, est cependant meilleure que la situation des collègues italiens. Et d'ailleurs, beaucoup de collègues italiens, pour peu qu'ils soient francophones, candidatent sur les postes en France, parce que ça c'est un point extrêmement important, je trouve, c'est que l'université et le CNRS font partie des institutions publiques qui acceptent de recruter sans condition de nationalité. Donc ça c'est un point extrêmement important. Et je crois qu'en France, je dois avoir autant de collègues étrangers que de collègues français. Et c'est à peine une question qui se pose. Peu importe, c'est un chercheur, il est italien, français, hollandais, pas un souci.
Ah, mais est-ce qu'il y a un effet de vase communicant alors? C'est-à-dire que du coup, les chercheurs italiens qui postulent en France, et du coup, les Français qui ne trouvent pas postulent au Canada. Est-ce qu'il y a une circulation comme ça de...
Alors une circulation à une échelle, à une certaine échelle collective, je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a des parcours particuliers, il y a des moments de chance, il y a des moments de malchance, plus souvent d'ailleurs, et il advient qu'à un moment donné, on est chercheur à tel endroit, parce qu'on a fait la bonne rencontre au bon moment, on a eu la bonne information pour apprendre finalement qu'il y avait un poste à Vancouver, on aurait pu passer à côté. Et Vancouver, eh bien, alors si on est seul ou en tout cas sans charge de famille trop importante, eh bien, ça peut être facile ou moins facile. Et on constate d'ailleurs que les maîtres de conférences sont beaucoup plus mobiles. Ils ont entre 28 et 35 ans, parfois en couple, parfois non, parfois un enfant, etc. Et ils sont plus mobiles, hein, géographiquement. Tandis que les professeurs, généralement à partir de 40, 45 ans, 50 ans, charge de famille, le conjoint ou la conjointe qui travaille et qui a un boulot parfois intéressant, eh bien, la mobilité est beaucoup moins facile.
Alors qu'en est-il des femmes? Parce que des fois on entend que bah, être une femme c'est un peu double peine, hein, parce qu'il y a comment dire, la difficulté de trouver un poste et de dire bah, y a des portes qui se ferment parce que l'idée, ah oui, mais c'est quelqu'un qui peut s'arrêter parce qu'elle va avoir des enfants, alors est-ce que c'est une réalité ou pas vraiment?
Difficile question. Si on regarde les chiffres, le monde de la recherche est plus masculin que féminin, mais la différence aurait, je crois, tendance à se réduire. Ensuite, cela dépend bien évidemment des disciplines. Par exemple, je pense que en psycho, il y a un relatif équilibre. En sociaux, il y a un relatif équilibre. En physique théorique, je pense qu'il y a un gros déséquilibre. Curieusement, hein, ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité des faits. Ensuite, je pense que l'université se dit, prétend, mais prétend dans le bon sens du terme, être assez à la pointe de ce type de réflexion et par conséquent cherche véritablement à minimiser cet écart au détriment des femmes. Alors parfois, c'est aidé aussi par les règles à l'échelle nationale. Normalement, il est demandé dans un jury de thèse à ce que le jury soit autant que possible, on voit toute la nuance qu'il peut y avoir, autant que possible paritaire sur le plan homme-femme. Maintenant, c'est aussi au détriment des femmes, parce que imaginez une discipline où il y aurait 90% d'hommes, hein, ça veut dire que les femmes sont systématiquement demandées pour les jurys de thèse. Et un jury de thèse, c'est, dans certaines disciplines, lire, analyser et faire un rapport sur un document qui fait 500 pages. Et je connais certaines collègues femmes qui me disent, non, j'ai déjà fait X soutenances cette année, j'ai plus le temps, faut aussi que je fasse mes propres recherches. Donc double peine ou peine d'un côté ou de l'autre, le tout est de trouver un équilibre qui ne sera résolu que lorsqu'il y aura 50-50 en termes de salariés et salariés et eux.
Alors, parce qu'on est obligé d'accepter quand on vous propose un jury de thèse, on a le droit de
Non.
dire non. Non, on a le droit de
On
dire non.
a une très grande liberté. À l'université, nous avons une très grande liberté. Et en fonction du sujet proposé dans la thèse, en fonction de la localisation aussi, en fonction de la disponibilité tout simplement, on a parfaitement le droit de dire oui ou non lorsqu'on est invité. C'est vraiment une invitation, hein, à un jury de thèse. Même si après on reçoit une convocation en bonne et due forme, mais tout se négocie auparavant. Alors il est vrai que si j'avais une soutenance de thèse dans une ville que j'ai envie de visiter, là c'est l'urbaniste qui parle bien sûr. Eh bien, j'aurais plus de facilité à accepter que dans une autre.
Eh bien, je vous propose, Denis Marthouzier, de faire une première pause musicale et on va aller du côté d'une ville que j'aime bien. On va aller du côté de Bruxelles. On va écouter Dick Annegarn dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt. Aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Dick Annegarn, Bruxelles, Bruxelles, selon vos affinités avec le nom de cette ville, sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne avec moi en studio, Denis Martouzet. Vous êtes toujours professeur des universités et vous enseignez toujours l'urbanisme à l'université de Tours. Et quand on se penche un peu sur, je ne sais pas si on doit dire votre biographie, on voit que vous avez enseigné alors au département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université des Antilles et de la Guyane. Vous avez enseigné au centre d'études supérieures de l'aménagement de l'université de Tours. Voilà, vous avez enseigné dans un département de sciences économiques. Vous avez enseigné dans un département de géologie pour des étudiants en carrière sociale. Et vous avez également enseigné à l'école normale supérieure de Port-au-Prince en Haïti. Alors, évidemment, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que être urbaniste, c'est être un caméléon? Parce qu'on voit que vous enseignez dans plein d'endroits, dans plein de départements différents. Alors comment ça se fait que la discipline urbanisme puisse s'adapter à toutes ces filières?
Alors un caméléon, oui, effectivement. Alors, si on remonte un tout petit peu en arrière, j'ai soutenu mon doctorat en 1993, et la discipline aménagement du territoire, pardon, aménagement de l'espace et urbanisme a été créée en 1992. Ça signifie tout simplement que mon doctorat, je l'ai commencé en géographie et je l'ai fini en urbanisme. Toute jeune discipline, il a fallu quand même constituer un jury de thèse. Et dans mon jury de thèse, eh bien, des professeurs établis dans la carrière professionnelle depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y en avait pas en urbanisme. Donc, il y avait, si je me rappelle bien, deux économistes, deux géographes. Il va y avoir un sociologue et un science politique, si je me rappelle bien. Et donc ça, ça m'a profondément marqué dans ma manière de travailler. Oui, je fais de l'urbaniste. Oui, je suis sur un poste d'urbaniste. Mais je fais intervenir autant que possible toutes les disciplines potentiellement intéressantes et qui permettent d'alimenter en fait la réflexion en urbanisme. Alors par la suite, bien évidemment, depuis les années 90, les choses ont changé. Il y a un certain nombre de choses qui ont structuré un petit peu la discipline. Donc c'est plus facile de s'y retrouver, mais c'est moins facile d'être interdisciplinaire. Moi j'ai gardé volontairement, véritablement volontairement, cette interdisciplinarité comme gage d'ouverture et de compréhension de la complexité du monde social urbain. Alors bien évidemment, je ne sais pas tout faire. Il y a des collègues qui traitent des questions d'énergie, de consommation et de réduction de la consommation d'énergie en ville. Je n'y connais absolument rien. Ce qui m'intéresse plus, c'est les gens, la population, les citadins qu'on appelle un peu trop souvent citoyens, les habitants. Et là, un habitant, eh bien, il suffit de se mettre à sa place, ce qui est assez facile, étant évidemment habitant moi-même. Eh bien, c'est un consommateur, c'est quelqu'un qui se promène, c'est quelqu'un qui va flâner, c'est quelqu'un qui a charge de personne éventuellement, qui a des préférences en matière de déplacement, voiture, à pied, métro, etc., etc. Et tout ceci fait un mélange assez complexe au sein d'une seule et même personne. Et en plus, au-delà des aspects que je qualifierais rapidement de rationnels, il y a tous les éléments qui sont de l'ordre du non-rationnel, de l'affectif, de l'émotionnel, du souvenir, des choses comme ça, qui font que bien, personne n'a la même ville en face de soi quand on est à Tours, même si on habite à Tours depuis un certain nombre d'années, autant que le voisin, mais le voisin aura face à lui une autre ville. Il y a une très grande subjectivité. Et donc, c'est cette subjectivité que j'essaye de décortiquer. Alors, pourquoi j'essaye de décortiquer cela? Alors, vous avez évoqué l'Université des Antilles-Guyane. Donc, le premier poste d'enseignant-chercheur que j'ai eu, donc c'était un poste de maître de conférence à Fort-de-France, plus exactement à Schœlcher, à côté de Fort-de-France. Et en fait, c'est une ville avec laquelle j'ai accroché tout de suite. Et pour le dire très clairement, encore aujourd'hui, c'est sans doute c'est la ville ou une des quelques villes que j'aime, au sens assez, même très fort du terme. Alors que les habitants de Fort-de-France, eh bien, semblaient, à mes yeux en tout cas, avoir un comportement duquel on aurait pu déduire qu'ils n'aiment pas du tout Fort-de-France, qu'ils n'aiment pas la ville en général. Et il est vrai que eh bien, le week-end, Fort-de-France est désert. Samedi matin, il y a des commerces qui fonctionnent, mais samedi après-midi, c'est véritablement désertique. Ne parlons même pas du dimanche. De la même façon, Fort-de-France, à partir de 6h du soir, bon, le soleil se couche, hein, il se couche tôt là-bas, mais il n'y a plus personne, ou en tout cas, il n'y a plus grand monde. Et donc, comme si chacun fuyait la ville dès qu'il en avait la possibilité. Et donc, mon questionnement sur le rapport affectif au lieu urbain et à la ville provient de ce décalage que j'ai eu entre... D'une part, ce que moi je ressentais vis-à-vis de Fort-de-France, ce que les Foyalais, les habitants de Fort-de-France, donc les Foyalais, laissaient penser de leur rapport à Fort-de-France, et ensuite, quand j'ai mené des enquêtes, bah, ce qu'ils en disaient, qui était en contradiction complète avec la manière dont ils vivaient et fuyaient la ville. Et puis à partir de là, oui, bien évidemment, j'ai continué sur ces questions de rapport affectif au lieu, rapport affectif à la ville. Dans des situations parfois particulières, sur des villes particulières. Je garde un très bon souvenir de la ville de Vierzon, où j'ai fait des entretiens absolument magnifiques avec des gens qui parfois avaient un peu de mal à vivre leur vie dans cette ville, mais en même temps on avait un discours parfois extrêmement poignant, très très fort en tout cas. Je me rappelle d'un monsieur... On a été deux à faire cet entretien. Donc j'étais avec une collègue psychologue et on lui demande de raconter sa ville, l'histoire de sa ville. Donc bah, Vierzon, c'est simple, 1950, c'est la grande ville industrielle, fleuron de l'industrie française même. Et puis bah, à partir de 1960-65, bah, c'est fermeture de telle usine, puis fermeture de telle autre, et puis fermeture de telle autre, etc. Vierzon a perdu un tiers de sa population en 20 ans quand même. Et puis, deuxième question, alors évidemment, on ne pose pas les questions de cette manière, mais deuxième question, bah, racontez-nous un petit peu votre vie dans cette ville. Eh bien, on a eu la même histoire, bah, j'étais dans telle entreprise, j'ai été licencié, j'étais au chômage, j'ai donc eu un poste dans cette seconde entreprise, et puis ça a fermé, donc j'ai été licencié, etc. Et en fait, il y avait une telle... tel parallèle entre la vie sociale, économique, culturelle aussi d'ailleurs, de la ville et la vie de cet individu-là, il y avait une véritable connivence en fait. Et on s'est aperçu que parlant de lui, de sa petite histoire entre guillemets, il parlait de la grande histoire de l'industrie française et de sa ville, et qu'il avait le sentiment de participer à cette grande histoire. Et donc il enterrait une certaine fierté, alors que son histoire était d'une tristesse assez éprouvante en fait.
Est-ce que ça veut dire que pour apprécier une ville, il faut en être, enfin lui être extérieur? Parce que là, les exemples que vous donnez, c'est Fort-de-France, mais vous y êtes venu travailler, et donc vous dites mais il faut y aller. Il préfère être le soir, être en famille avec des amis et pas en ville. Et du coup, est-ce que ça a une incidence Et la vie à Arzon, vous êtes venu et donc vous dites cette histoire passionnante, mais peut-être c'est parce que vous aviez un autre angle de vue, peut-être que vous voyez les choses d'un autre angle que dedans, en fait.
Oui, alors ça dépend si en fait on parle de mon rapport affectif à la ville hein, ou si on parle du rapport affectif à la ville des individus, des personnes auprès de qui j'ai pu faire avec différents collègues des enquêtes. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut être un peu extérieur, il faut être extérieur à l'objet qu'on regarde, il faut être un peu extérieur à soi-même. En tout cas, il faut être décalé, faut qu'il y ait quelque chose qui nous fasse faire un pas de côté. Et moi, ce pas de côté a été provoqué par l'incompréhension que j'avais de pourquoi les Foyalais fuient leur ville, alors que quand même, c'est vraiment une ville que moi, j'aime beaucoup. Donc j'étais en décalage. Et étant en décalage, vis-à-vis de moi-même, surtout, eh bien, c'est plus facile de se regarder et de s'analyser en train de et de se poser des questions sur au fait pourquoi j'aime Fort-de-France. Maintenant, c'est pas forcément comme ça. Le monsieur dont je parlais de Vierzon, il est né à Vierzon, il a habité toute sa vie à Vierzon et il ne s'était peut-être pas posé de questions vis-à-vis de son rapport affectif à Vierzon, mais il pouvait l'exprimer de très belle façon. Et là, bien sûr, il faut qu'il y ait un couple entre interviewé et intervieweur. Et c'est ça qui permet de faire émerger un certain nombre d'informations sur. D'informations très ténues. Hein, c'est pas. En matière affective, les choses ne sont jamais simples. Au contraire, elles sont toujours extrêmement compliquées. Il y a plusieurs causes, si tant est qu'il y ait des causes. Il y a plusieurs façons de dire les choses. Il y a même d'énormes contradictions parfois. Dans ce que disent les gens de leur ville lorsqu'on leur demande s'ils aiment ou n'aiment pas.
Alors là, c'est comment dire, ça interroge aussi cette idée de, on se base sur des ressentis, sur des émotions pour être urbaniste. Du coup, ça peut dérouter si on se dit, bah tiens, peut-être, si on imagine en tout cas qu'un travail scientifique, c'est sur des faits établis, des données précises, voire chiffrées. C'est-à-dire là, au contraire, on va chercher l'histoire personnelle, l'émotion.
Oui, oui et non. Évidemment, c'est toujours comme ça. Oui et non. Alors en ce qui concerne l'enseignement que je donne un enseignement d'urbaniste. En fait, je fais des choses. J'essaye d'enseigner des choses qui relèvent de la théorie du projet, projet d'urbanisme, projet urbain, projet architectural. En matière de recherche, je me suis un peu distancié de tout ça. Et autant au début, je m'intéressais à l'individu ou aux groupes sociaux en tant qu'ils pouvaient donner de l'information aux urbanistes pour que ceux-ci puissent en faire quelque chose en matière de conception et d'animation urbaine, autant maintenant je distingue les deux et j'ai de moins en moins la conviction qu'il est possible de se servir de ces informations extrêmement précises et parfois flou aussi d'ailleurs, mais en tout cas très personnel, pour dire à l'urbaniste ce qu'il faut faire. D'autant plus que l'urbaniste est généralement sous le regard, parfois sous la coupe, du politique, qui a au final la décision. En ce qui concerne donc les données relatives au rapport affectif au lieu urbain et à la ville, en fait, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a plusieurs types d'individus. La ville peut être un décor qui va cristalliser une émotion, par exemple. C'est l'exemple d'une jeune femme qui habite à égale distance entre Nantes et Rennes qui va alternativement à Nantes ou à Rennes lorsqu'elle a envie d'aller en ville, faire du shopping ou diverses activités, toute nature que ce soit, sans préférence finalement. Et un jour, alors qu'elle est à Nantes, elle apprend par téléphone le décès à Strasbourg de son père. L'enquête a eu lieu 3 ans après ces événements et c'est au moment de l'entretien qu'elle s'est dit, mais au fait, je ne vais plus jamais à Nantes. Je ne peux plus aller à Nantes. Nantes est teintée d'une émotion beaucoup trop forte pour qu'elle puisse y retourner et elle s'en était même pas aperçue. Alors ça, c'est de l'ordre de l'histoire personnelle. L'urbaniste ne peut rien en faire. En revanche, on a fait aussi un entretien. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collègue, mais on a beaucoup analysé cet entretien parce qu'il était très très intéressant. Il a duré près de 3 heures d'une dame allemande qui habite le quartier des Deux Lions à Tours. Et en fait, cette dame est née dans les années 30 en Allemagne, dans à proximité d'une ville où finalement, avec ses parents, elle a habité, à Wolfsburg, pardon. Wolfsburg, dans les années 30, c'est un petit village où un certain Adolf Hitler a décidé de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une ville durable, c'est-à-dire une ville pour 60 000 habitants, pour abriter les usines Volkswagen. Et avec pour mot d'ordre, faites, messieurs les architectes, on ne parlait pas d'urbanistes à l'époque, messieurs les architectes, faites une ville de 60 000 habitants avec des équipements culturels d'une ville de 300 000 habitants dans la forêt en coupant le moins d'arbres possible. Donc cette dame a vécu un certain temps là, notamment son enfance et son adolescence, bien évidemment. Puis après, elle a vécu sa vie, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Jusqu'au moment où elle arrivait dans le quartier des Deux Lions, au moment où celui-ci était encore en cours de construction, où il y avait encore beaucoup d'espaces verts, où le Cher était beaucoup plus accessible que maintenant, même si la rivière Cher reste accessible. Et elle s'est installée là parce qu'elle s'y sentait bien. Et l'entretien a révélé en fait que elle s'y sentait bien parce que c'était le quartier que de toute sa vie elle avait pu voir et qui ressemblait le plus à celui de son enfance. Sous-entendu, elle a porté en elle un modèle de ville. Alors bien évidemment, je ne fais pas l'apologie de la dictature allemande des années 30-40, loin de là, au contraire, mais elle a porté en elle toute sa vie un modèle de ville qui peut lui intéresser les urbanistes. Voilà, donc il y a des informations utiles, d'autres informations beaucoup moins utiles, et en tout cas, vraiment dans tous les cas, à prendre avec une extrême prudence.
Donc ça veut dire qu'il y a des ça laisse une la ville laisse une empreinte émotionnelle sur les gens.
La ville laisse une empreinte émotionnelle sur les gens, pas sur tout le monde, et pas n'importe quelle ville. Dans le cas de la dame entre Nantes et Rennes, bah Strasbourg, enfin l'événement strasbourgeois a impacté très très fortement son image, l'image qu'elle avait de la ville de Nantes. Dans d'autres cas, ça peut être, évidemment, ce sont parfois des événements heureux aussi. Ça peut être aussi une ambiance, ça peut être une rencontre. Voilà, c'est la ville où j'ai rencontré l'âme sœur, etc. Bon, ça fait un peu cliché, parfois un peu à l'eau de rose, mais c'est quand même pas si rare que ça. Et puis, il y a aussi une catégorie de personnes qui ne parlent pas de telle ou telle ville, mais qui parlent de la ville en général. Eux, ce sont les amoureux de la ville. Des amoureux parce que dès qu'ils quittent la ville, ils se sentent éloignés. Et malheureux d'être éloigné, c'est vraiment leur écosystème, leur milieu, et c'est là où ils s'y sentent bien sur tous les plans, et notamment sur le plan des émotions et et des affects de façon plus générale. Alors, il y a des amoureux naïfs, il y a des amoureux moins naïfs, et je me rappelle très bien de deux entretiens qu'on a pu faire. Où l'un était plus nuancé, oui, j'aime telle ville, ou j'aime la ville, même si je sais qu'il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de. Etc., etc. Donc il en disait tous les défauts. Il était assez objectif, en tout cas un petit peu objectif. Et un autre, qui lui avait un discours véritablement enflammé, voilà, j'aime la ville, il y a de l'ambiance, il y a ceci, il y a etc. Et puis une ville, c'est bien, ça pue, mais j'aime ça. Et lui, fallait jamais l'emmener à la campagne. Ça aurait été une séparation douloureuse.
Mais là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a quelque chose d'irrationnel aussi dans l'attachement ou le rejet qu'on peut avoir d'une ville et, comment dire, même dans le sentiment d'appartenance à une ville. Et on comprend mieux pourquoi ça peut intéresser les politiques, de savoir qu'il y a une part d'irrationnel et peut-être qu'on peut influer sur la perception de la ville. Et je dis ça parce que on va pouvoir en parler vite. Vous avez apporté ici, Denis Martouzet, vous avez apporté un diaporama. Donc justement, à propos de la ville. Et donc, je n'en dis pas plus parce que je propose de faire une pause musicale avant d'en parler. Et alors, puisque vous parliez de la ville qui pue, je propose d'écouter Paris, tu pues de Richard Gottener. Et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Paris, Paris diesel, tu sais, tu cocottes sec ma poule. Ça coince jusque dans tes ruelles, tu refoules de rue ma biche. God save the fuel, God save the fuel. Tu sais, tu contrôles plus tes gaz. Paris, tu délires du tuyau. Tu nous enfumes les métastases. Tu klaxonnes grave Paris. Tu pues du pot. Paris, je t'aimais. Paris, je t'aime plus. Adieu Paname. Paris, je t'aimais. Paris, je t'aime plus. Adieu Paname, Paris tu pues. Fluctua, knack, mergiture, un bateau mouche, cigare. Dans un brouillard d'hydrocarbures, suite au passage huileux d'un autocar, deux autocars, trois autocars. On se croirait un enfant tous, il jouait aux piétons. Derrière lui cette lune rousse, c'est ton soleil Paris, Paris goudron. Paris je t'aimais, Paris je t'aime plus. Je t'aimais Paris, je t'aime plus. Adieu Paname, Paris tu pues. Qu'est-ce que tu fleurais bon quand tu sentais le crottin. T'as voulu monter dans le camion. Qu'est-ce que tu schlingues depuis. Putain, putain. Qui tout terrain avec Treuil à l'avant. Tarzan roule s'acheter du parfum à 200 mètres au moins. Drugstore des champs, drugstore des champs. Pendant ce temps, le vélo Parigo derrière son autobus. Bois l'embouteillage au boulot. Chercher l'erreur, c'est où dites le hiatus. Paris, je t'aimais, Paris, je t'aime plus. Adieu, Paname. Paris, je t'aimais, Paris, je t'aime plus. Adieu, Paname. Paris, tu tu cocottes sec ma poule. Ça coince jusque dans tes ruelles. Tu refoules de rue ma biche. God save the fuel, God save the fuel. God save the fuel, God save the fuel, God save the fuel.
Richard Gotenner, Paris, tu pues, sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Alors, mon invité est toujours Denis Martouzet, et nous parlions avant cette pause musicale d'un diaporama que vous avez apporté. Alors, un diaporama, nos auditeurs ne le verront pas, mais on peut peut-être en mettre quelques extraits sur le podcast. Alors, dans ce diaporama, vous avez fait une sélection de visuels. Donc là, par exemple, on a « Aimé la ville » par la RATP. On voit d'autres visuels, alors peut-être que les gens l'ont vu ici dans le coin, parce qu'il y a « I lush you ». Voilà, donc c'est une sélection d'images, je crois, où il y a cette idée d'aimer la ville, il y a plein d'inventions lexicales et visuelles, plus ou moins heureuses. Alors est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors effectivement, plus ou moins heureuse, d'ailleurs à propos de la ville de Loche et le slogan « I lush you », ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de réunions en local, hein, du côté de Loche, bien évidemment, jusqu'à ce que finalement, assez rapidement, mais pas tout de suite quand même, ils abandonnent le slogan. Y en a d'autres aussi qui sont plus, j'allais dire, soft. Hein. Par exemple, I Amsterdam. Et là, on voit dans cette expression en fait que le rapport affectif en fait au lieu, quel qu'il soit, hein, ville ou une pièce, hein, c'est ce rapport au lieu est affectif si il y a un enjeu de soi en fait, si ça nous déstabilise un peu, si ça nous remet en cause, si ça nous conforte aussi. Mais en tout cas, il y a un enjeu. Et dans I Amsterdam. Le I am, évidemment, le je, il est tellement présent, il est premier même, que la ville c'est moi, moi c'est la ville, et on peut se reconnaître l'un l'autre. Alors, en même temps, c'est une injonction, hein. C'est bien les pouvoirs publics qui ont fait ça, donc il y a une sorte d'injonction à s'associer à la ville, qu'on soit d'Amsterdam ou qu'on soit un touriste. En Gironde, avec le G de Gironde bien mis en avant visuellement sur le panneau publicitaire, en Gironde, à chacun son point G. Je ne sais pas exactement comment ça a été reçu par certaines parties de la population bordelaise, par certains touristes, mais là, il y a véritablement une volonté de provoquer et de faire en sorte que n'importe qui se souvienne de l'affiche, donc de Bordeaux, et se dise peut-être, tiens, oui, si je vais faire du tourisme urbain en France, je vais peut-être aller à Bordeaux. J'ai des doutes quand même.
Ouais, c'est surtout que ça induit peut-être une sorte de tourisme particulier.
Peut-être aussi, effectivement. Mais je ne pense pas que ça soit l'intention là. C'est vraiment l'intention, elle est de marquer, voire de choquer, de manière à ce que le mot Gironde ou Bordeaux soit au premier rang des villes auxquelles on penserait si à un moment on se disait « Tiens, je vais aller faire un petit tour quelque part, où est-ce que je vais aller ?» Et à ce moment-là, peut-être que cette image reviendrait. Mais je doute que ça soit du goût de tout le monde. Il y en a qui sont plus soft. Aimer la Bretagne, c'est d'abord aimer. Et là, on voit aussi le rapport à soi, parce que aimer, en général, bah, c'est effectivement s'aimer soi-même. Et c'est d'abord aimer, c'est d'abord soi-même qui a un élan vers quelque chose, en l'occurrence la Bretagne.
Et là, elle date de quand, cette campagne d'aimer la Bretagne ?
Désolé, je ne saurais le dire.
10 ans, ça a moins ?
Je pense que ça a une dizaine d'années, ou un petit peu plus, hein. Mais sans aucune certitude de ma part, là-dessus. Alors, il est vrai que du point de vue touristique, là, ça s'adresse quand même, vu les photos qui sont derrière ce slogan, ça s'adresse d'abord aux touristes, et que la Bretagne est une destination touristique très très prisée depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, et en tout cas a pris le pas sur certaines destinations plus au sud de la France.
Je ne suis pas sûre qu'en tout cas cette campagne de publicité serait telle qu'elle l'est là, si elle était faite aujourd'hui, parce que finalement ces images, elles véhiculent quand même Voilà, on voit c'est des couples hétérosexuels, on voit c'est des familles, donc ça véhicule quand même certaines valeurs. Même, je pense qu'on pourrait taxer cette campagne de publicité pas être très représentative. Donc je suis pas sûre qu'on ferait ça de cette façon aujourd'hui.
Non, c'est vrai que cette image, en fait, cette série d'images n'est pas très représentative de la diversité des personnes qu'on peut croiser ici ou là. En fait, c'est très bien pensant. Autant pour la Gironde, on peut avoir un doute là-dessus, mais là, en l'occurrence, pour la Bretagne, c'est très bien pensant. Ce sont des personnes, effectivement, pas trop âgées, pas trop jeunes. On voit une enfant, ce sont des couples hétérosexuels, effectivement, blancs, classiques. Enfin, ça marche bien, je dirais. Il y a une autre image qui est peut-être encore plus bien pensante, c'est celle de Montréal. Où il y a un slogan, c'est
Alors, voilà.
Voilà. J'aime mon quartier, j'en prends soin. J'aime mon quartier, j'en prends soin. Il y a un dessin qui fait un peu dessin d'enfant, mais pas tant que ça. Où on s'aperçoit que c'est tellement bien pensant qu'il y a de toute façon quelqu'un en vélo, il y a une personne âgée, il y a une mère de famille avec, avec une poussette. Il y a quelqu'un qui fait attention à quelqu'un d'autre. Enfin, on est dans le quartier idéal. Alors, j'aime mon quartier, j'en prends soin. En fait, c'est une campagne publicitaire qui date des années 92-95 à Montréal, hein, les quartiers ouest de Montréal. Voilà, il y a des plantes vertes, il n'y a pas d'immeubles trop imposants. C'est vraiment un quartier un petit peu idéal avec des gens un petit peu idéalisés. Et en fait, quand je dis un petit peu, c'est sont véritablement idéalisés. Alors derrière cela, bien sûr, il y a il y a une forme de manipulation d'une certaine façon. Pour qu'un quartier soit appréciable, il faut qu'il réponde aux normes actuellement en vogue pour définir un bon quartier.
Mais voilà, donc là, on voit bien encore ce que vous expliquiez tout à l'heure, l'idée du discours politique. Parce que ces campagnes de pub-là seraient compliquées à mettre en œuvre aujourd'hui dans ce format-là. Que si la ville idéale, c'est ça, je pense que ça crisperait, et peut-être à juste titre, une certaine partie de la population.
Oui, et c'est pour ça en fait qu'il y a un certain nombre d'images, il y en a d'autres hein, dans le diaporama, finalement on ne représente pas des gens. On n'écrit pas le mot « aimer » non plus, alors c'est « J' un cœur, ma ville ». J'aime ma ville. Ça, on le voit partout. Ou alors des images où on voit des animaux. Alors, il y a une série d'images dans une ville de banlieue parisienne où c'est un hérisson qui parle, qui agit, qui fait des choses de manière à dépersonnaliser comme cela. Personne ne peut véritablement s'associer à un hérisson. Donc, de fait, tout le monde le peut, plus ou moins bien. Mais ça ne met pas l'accent sur tel type de personne, et ça ne stigmatise pas non plus tel autre type de personne. Donc c'est une façon d'affadir un petit peu le slogan, tout en touchant le maximum de personnes. Mais derrière cela, il est clair qu'il y a une volonté de manipulation. Parce que ce sont des slogans qui touchent à des états mentaux, aimer est un état mental, qu'on ne peut pas forcer à aimer. Ça ne veut rien dire, force-toi à aimer quelqu'un ou force-toi à aimer une ville, ça ne veut absolument rien dire. Ça a été théorisé hein, par, notamment par un philosophe, même s'il ne traitait pas de la question urbaine, John Elster, un philosophe scandinave mais qui est aux États-Unis, qui parle d'effets essentiellement secondaires, c'est-à-dire les objectifs qu'on ne peut pas se fixer parce qu'à partir du moment où on se les fixe, eh bien, on est sûr de ne pas y arriver. Et aimer est un effet essentiellement secondaire. Il y a des tas de raisons qui font qu'on aime quelque chose, mais on ne peut pas se donner pour objectif de aimer quelqu'un ou d'aimer quelque chose. Là où il y a manipulation, c'est quand on passe insidieusement en fait, du slogan sur un état mental à l'action. Alors ça a été repris aussi, bien sûr, par les groupements ou les partis politiques. Hein. Là, on a sous les yeux une affiche qui reprend le tableau de Lacroix, qui est signé de Villiers, La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Peut-être un peu moins de manipulation, mais il y a beaucoup plus d'injonctions très très dures. De la même façon, on voit aussi avec la croix, c'est la croix de Lorraine, la France aimait là ou quittait là. Bon, bref, ça a été repris. Alors, autant quand j'ai commencé à m'occuper de cette question-là, il y a une petite quinzaine d'années peut-être, il y avait relativement peu de slogans ou d'images. Et depuis quelques années, peut-être depuis 5 ou 8 ans, toutes les villes font cela. Pour les conseils de vie locales, par exemple, j'ai pris une photo qui était une affiche en 4 par 3 à Lyon, je crois, où on est censé prendre son quartier, donc participer au conseil de vie local, et on voit un couple autour d'un lampadaire et l'homme embrasse le lampadaire. Là, on n'est pas dans la manipulation, on est dans la dévalorisation en fait de ce que signifient des mots qui sont extrêmement forts comme aimer ou détester, hein, c'est pareil. Voilà, le type, il aime son quartier, il embrasse un lampadaire. Je sais pas quelle est l'intention qui est derrière, je ne sais pas quel est le concepteur de cette campagne publicitaire, mais j'ai un doute sur l'impact que ça peut avoir. Alors, de mon côté, en tant qu'urbaniste, j'en suis arrivé à la conclusion, finalement, enfin la conclusion qui partielle, hein, ça évolue chaque jour, que si on veut faire de l'urbanisme, il ne faut pas forcément aller du côté du rapport affectif au lieu, dans la mesure où le risque de manipulation est beaucoup trop fort. Or, l'urbanisme échappe aux urbanistes. C'est repris par la population qui en fait usage, et c'est repris par le politique. Bon, pour peu qu'il y ait des groupes de pression, des groupes de contradictions, des choses comme ça, c'est trop facile finalement d'utiliser le rapport affectif au lieu pour manipuler les personnes. Donc voilà ce que je dis aux étudiants. Faites de l'urbanisme peut-être un petit peu plus technique que ce dont je parle, ou alors faites-le, mais en ayant bien conscience. Des effets très néfastes de la manipulation.
Donc, c'est-à-dire que comment dire, la ville est un objet marketing comme un autre?
La ville est un objet comme un autre et par conséquent, les spécialistes du marketing s'en sont emparés, effectivement. Avec des gros contrats d'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant, on va dire.
Eh bien, merci Denis Marthouzet pour avoir partagé avec nos auditeurs une partie de votre travail. Donc, je rappelle que vous êtes professeur d'urbanisme, voilà, et que vous appartenez à l'UMR CNRS CITER, Dynamique et Action Territoriale et Environnementale. Merci.
Merci à vous.